I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie.
Omaha. We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 242 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver de bon matin. Il est 4h36 au moment où nous enregistrons ce podcast. Grégory Richard a les yeux mi-clos à ma gauche. Bonjour Grégory.
Salut Alain, bonjour à tous. Et salut Raphaël, bien entendu.
Quel courage pour se tenir droit d'un coup.
C'est vrai que...
Raphaël Masmejean, à ma droite, bonjour Raphaël.
Salut, salut à tous.
Messieurs, nous sommes donc réunis pour débriefer le Super Bowl qui vient tout juste de se terminer. L'émission vous est présentée par le Hard Rock Café Paris qui nous a soutenus pendant toute la saison, encore une fois, pour les émissions du mardi, évidemment. C'est une émission du mardi transformée en émission du lundi, très tôt le matin. On ne perd pas les bonnes habitudes, un petit jingle, et puis ensuite on se retrouve pour débriefer tout ça.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
Les Kansas City Chiefs sont vos champions NFL 2019-2020. Messieurs, nous y sommes. Les Chiefs qui ont été longtemps menés dans ce match, très longtemps menés pour finalement s'imposer 31-20 contre San Francisco. On en a un petit peu parlé entre nous avant d'enregistrer. On va partir là-dessus, c'est la première question. Est-ce qu'on a assisté à un petit hold-up de Kansas City ?
Hold-up, c'est un peu dur parce qu'il y a toujours cette connotation, on va dire, négative qui laisserait penser que les Chiefs méritent pas leur victoire, ce qui est pas le cas parce que quand t'arrives à mettre 21 points en à peu près 6-7 minutes à cette défense-là des 49ers, qui a été excellente toute la saison, qui l'a encore été pendant 3 quarts temps et demi, on peut pas dire que les Chiefs méritent pas non plus, mais c'est vrai que dans le scénario du match, ça peut un peu ressembler à un hold-up parce que les Chiefs sont au bord du gouffre. Moi, j'ai quand même en tête ce moment dans le match où ils ont une 3ème et 15 à jouer, qui est la passe pour Tyreek Hill, là, en profondeur lancée par Mahomes. À ce moment-là, ils sont menés 20-10, ils sont en 3ème et 15, au début du 4ème quart-temps, tu te dis, bah voilà, si elle est stoppée, derrière, on peut quand même passer a priori à autre chose, et ils s'en sortent miraculeusement, derrière, tout s'enchaîne. Donc, Pas, je vois ce que tu veux dire dans le scénario. Après, la victoire au fond peut aussi être méritée pour les Chiefs ce soir quand même, quoi.
Grégory.
Je rejoins globalement Raphaël. C'est vrai qu'il l'a dit. Il y a quand même ce jeu qui change, je pense, pas mal la physionomie de cette fin de rencontre. c'est sûr qu'on avait du mal au moment où c'est arrivé à se dire que Kansas City allait réussir à faire sauter le verrou défensif de San Francisco, vu la domination perpétuelle qu'avait la ligne défensive des Niners à ce moment-là. Maintenant, voilà, c'est aussi à mettre au crédit, au mérite de Kansas City, d'avoir su justement redresser un petit peu la barre au niveau de la O-line pour laisser suffisamment de temps à Patrick Mahomes et pour être notamment décisif sur les deux drives qui permettent notamment à Kansas City de faire la différence rapidement dans ce dernier cas.
Au niveau des statistiques, en tout cas, on les découvre aussi au fur et à mesure. Hein, là, la poussière redonde un petit peu. On peut pas dire que ce soit un hold-up statistique, puisque je vous les donne quand même. 26 first down à 21 pour Kansas City, 397 yards à 351 pour Kansas City, 33 minutes de possession en faveur de Kansas City. Ils ont aussi dominé sur les yards de la passe. Et au niveau du jeu au sol, qui était quand même une de des clés de ce match, il y a 129 yards au sol pour les Chiefs, contre 141 pour les 49ers, donc ils n'ont pas été très loin.
Un brin pour souffler par la dernière course de Damien Williams, mais je te rejoins, c'est vrai qu'il y a eu cette alternance qui a été bien apportée du côté de Kansas City. Ouais.
Au niveau, encore une fois, de cette explosion de fin de match, 2 minutes 44 à jouer quand les Chiefs repassent devant. Derrière, un stop avec un sac très important sur Jimmy Garoppolo, un touchdown de plus de Damien Williams, une interception. On peut en effet quand même souligner ça, Raphaël. Ils sont allés le chercher, il n'y a pas de doute au final hein, sur cette victoire. Elle est plutôt nette, elle se dessine sur une explosion en toute fin de match, mais elle est plutôt nette.
Elle est plutôt nette, elle se dessine sur une fin de match. En fait, c'est une victoire qui ressemble vraiment, mais on en a un peu parlé entre nous, mais qui ressemble à ce que les Chiefs nous ont montré depuis le début de ces playoffs, et notamment contre Houston, contre les Titans. C'est une équipe des Chiefs qui est parfois lente au démarrage, c'est parfois un peu compliqué de se mettre dedans, mais qui, par ses joueurs en attaque, par ses joueurs en défense, est capable sur un carton, sur un temps très court, d'exploser dans tous les sens, de faire les actions clés. Et là, on l'a encore vu avec cette fin de match où ils enchaînent 21 points pour totalement gagner ce match. Et à la fin, effectivement, l'addition est presque lourde pour les 49ers. Victoire nette et explosive, et on l'avait dit, c'était cette explosivité des Chiefs qui nous faisait dire qu'ils pouvaient l'emporter, et encore une fois ils ont su le montrer au meilleur moment face à une défense pourtant des 49ers qui a vraiment pas démérité une très très grande partie du match.
Bah, on va pas se mentir, on pensait quand même pas vraiment, enfin il y a un moment où on s'est quand même dit bon, cette attaque des Chiefs elle explose toujours à un moment dans les matchs. Moi je commençais à plus y croire. Grégory, je ne sais pas si si tu as été surpris par le fait que ça démarre quand même en fin de match.
Tu parlais de l'attaque ou de la défense?
De l'attaque des Chiefs.
Ouais. L'attaque des Chiefs, ouais, non, je te dis, c'est sûr qu'il y a eu ce petit sursaut d'orgueil à un moment donné. Après, en première mi-temps, il y a quand même une copie qui est assez solide. C'est vraiment surtout ce troisième carton qui est très perturbant du côté des Chiefs, où en effet, ça coïncide avec la progression du pass rush. Puis on a par exemple cette passe, cette interception très vilaine de Patrick Mahomes. Donc, encore une fois, on avait la sensation que San Francisco prenait l'ascendant et se dirigeait tranquillement vers une victoire qui lui tendait les bras. Après, sur l'ensemble de la rencontre, alors je sais pas si j'aurais employé les termes de Raphaël, à savoir une victoire nette, mais en tout cas, voilà, c'est l'attaque de Kansas City comme ce qu'on avait pu voir quand même en première mi-temps, ce qu'ils avaient été capables de démontrer avec un Patrick Mahomes qui, sans être extraordinaire, arrivait à exploiter quand même les brèches qu'on lui mettait à disposition. Donc je dirais pas que j'ai été étonné ou surpris, mais c'est sûr que à ce moment-là, à partir du moment où il y a ce momentum, tu te dis que tout peut aller très rapidement, qu'il suffit d'un stop, sachant que les Chiefs sont revenus à 3 points, et c'est exactement ce qui s'est passé, et voilà, ça prouve encore une fois qu'en NFL, tout peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre.
Il y avait quand même de quoi être inquiet quand on voit justement l'interception dont tu parlais de Patrick Mahomes. Il y a quand même un moment où on commence à se demander pas ce qui se passe avec Mahomes, mais il a l'air atteint, il y a des passes qui sont très vilaines, il y a une interception qui est très vilaine. Il y avait de quoi se poser des questions et de se dire que ça allait quand même de plus en plus mal.
C'est ça, surtout quand on voit que de l'autre côté, les Niners se gênaient pas pour exploiter justement les erreurs et les pertes de balles de Kansas City. On va sans doute y venir, hein, mais il y avait aussi cette question de se dire bon bah Shanahan a peut-être aussi tiré les enseignements de 2016, et en l'occurrence on a vu qu'à la course, même si le run stop de Kansas City a pas été spécialement exposé, en tout cas Il y avait une volonté de vraiment manger un maximum le chrono justement pour laisser le moins de temps à Patrick Mahomes. Et pourtant, bah, Mahomes, sans avoir 15 minutes, a réussi quand même à remettre Kansas City dans le bon sens et à laisser sa franchise y croire jusqu'au bout.
Raphaël Kelchanan, il aurait pu faire mieux sur la fin de match.
Mais même pas que sur la fin de match, en y repensant maintenant, il y a quand même cette fin de première mi-temps où il récupère le ballon avec 1 minute 30 et qu'il prend pas de temps mort et qu'il laisse les Chiefs baisser le chrono avant leur punt. Qu'ensuite, lui, après la première action, il perd quasiment 20 secondes sans appeler de temps mort. Voilà, je pense que dans un Super Bowl, avec 1 minute 30 à jouer, quand tu récupères le ballon, qu'en plus c'est toi qui le récupéreras à nouveau aussi après la mi-temps, je pense que c'est peut-être déjà une petite erreur de se contenter du 10-10. Et puis là, en toute fin de match, il fait peut-être pas tout le temps les bons choix, mais c'est pas celui que j'incriminerais le plus, on va dire. Moi, j'ai aussi en tête, par exemple, un Garoppolo qui rate une passe pour Emmanuel Sanders en profondeur. Emmanuel Sanders est devant ses deux défenseurs. Si Garoppolo fait la passe comme il faut, comme un grand quarterback qui porte son équipe devrait pouvoir le faire, normalement ça fait touchdown et les 49ers repassent devant au score. Donc voilà, je pense qu'il a sa part de responsabilité, mais c'est pas le seul sur ce match, clairement.
Alors je vais être un peu chauvin, mais on a quand même plutôt tapé juste au niveau des previews, parce que tu parles de Jimmy Garoppolo. On avait dit qu'il pouvait être poussé parfois à l'erreur, qu'il pouvait réaliser des lancers risqués. On l'a vu, il a été intercepté deux fois quand même dans ce match. Et il n'a pas non plus réalisé, comme tu le disais, certaines grosses actions. Alors qu'à l'inverse, hein, Patrick Mahomes a pu être explosif à tout moment, et il a fini par l'être. Donc ça s'est joué aussi sur ces grosses actions-là, a priori, avec deux quarterbacks qui ont été fidèles à ce qu'ils peuvent être et ce qu'ils ont été pendant toute la saison. Au niveau du coaching, tu le disais, donc Kelchanan, il y a eu des trous d'air. On a quand même eu l'inverse avec un Andy Reid qui a été plus offensif que jamais. On l'a remarqué dès le début de match.
Ah oui, cette quatrième tentative qu'il tente sur le premier drive des Chiefs en début de match. Il n'a pas hésité à passer la balle à son coureur. Il a envoyé plusieurs fois... c'est plutôt Steve Bieniemy, son coordinateur offensif, qui a appelé plusieurs courses pour Mahomes, où tu sentais que c'était vraiment l'idée, c'était de faire courir Mahomes plus que de l'improvisation. Des fois, on a eu un peu peur pour l'épaule de Mahomes et tout ça, mais en tout cas, ça a été plutôt réussi de ce côté-là. Non, c'est Andy Reid ne sait pas ce qu'on pouvait craindre un peu, parce qu'on avait en tête quelques finales de conférences, quelques mauvais souvenirs. Lui, pour le coup, niveau coaching, je pense remporte cette bataille sur ce match. Hein.
Greg, un Andy Reid offensif, ça t'a plu?
Oui, alors après, c'est vrai que ce que vous évoquez, c'était vrai en première mi-temps. En deuxième période, encore une fois, et ça revient également à ce que vous évoquiez sur Mahomes, on a senti que c'était un petit peu le système D pour le quarterback des Chiefs. Alors je me permets de répondre en même temps à la question sur... faire un petit comparatif sur Mahomes et Garoppolo. Je pense que forcément, Garoppolo a pas l'avantage de la mobilité qu'avait Mahomes. Donc Mahomes, on l'a vu sur des phases, était vraiment capable d'improviser. Je me rappelle d'une action, par exemple, où Bosa est vraiment tout près, limite le tape au niveau des jambes, et pourtant sa vivacité lui permet d'aller chercher la première tentative derrière. C'est pas forcément des armes avec lesquelles avec lesquelles Garoppolo peut composer. Et c'est vrai que je sais pas, peut-être que Shanahan a encore une confiance limitée en son quarterback. C'est quelque chose qu'on a longtemps soupçonné cette saison, et c'est encore quelque chose qui ressort un petit peu de cette finale là, parce que c'est vrai qu'on a surtout l'impression qu'il joue sur de l'isolation des receveurs ou des running backs pour vraiment mettre son quarterback dans les meilleures dispositions pour trouver la cible facile, et que dès que l'étau se resserre un peu plus, ça n'a pas été toujours vrai, hein, parce qu'il y a notamment le drive où San Francisco va inscrire le 20-10. On a vraiment un Garoppolo qui a l'air extrêmement solide. Sauf qu'après, quand les Chiefs mettent un peu plus de pression, notamment dans les tranchées, on a quand même senti un Garoppolo qui s'est énormément liquéfié. Et encore une fois, il n'y a pas forcément cette faculté à sortir de la poche, à trouver les quelques pas pour se démarquer. Voilà. Ouais. Et du coup, c'est un peu chaotique, un peu catastrophique. On jette un petit peu le ballon. Je pense notamment à cette action, le turnover and down, justement, où il jette un petit peu le ballon de manière désespérée parce que justement, il sait pas trop quoi faire du ballon. Il y a des moments où il garde, un petit peu trop la balle, comme le disait Raphaël. Et bon, c'est sûr que c'est des choses qu'on peut difficilement occulter. C'est vrai que je mettrais plus ça sur les lacunes de Garoppolo en fin de match que vraiment sur la gestion de Shanahan, même si en effet il y a quelques moments un petit peu compliqués, des points d'interrogation qu'on peut se poser de la part du head coach des Niners sur certaines fins de période.
Après, ça reste. Alors, il y a eu une domination des 49ers. Il faut qu'on aille là-dedans quand même. Ils ont été menés. Alors, 7-3 pour Kansas City à la fin du premier quart, 10-10 à la pause. Mais il y a le troisième quart-temps où il y a un 10-0 pour San Francisco et où en effet, on sent que la tendance a l'air d'être quand même franchement en faveur des Californiens. Ils ont l'air de maîtriser leur sujet, de stopper l'attaque d'en face, de eux dérouler en attaque. Mais à ce moment-là, Jimmy Garoppolo a des très bonnes stats. Mais j'avoue que moi j'ai du mal à être convaincu, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'il domine le match, qu'il imprime un rythme lui du match, il est bien utilisé, mais j'ai pas l'impression que c'est une performance comme pouvait être une performance dominante d'un Tom Brady dans un Super Bowl ou d'autres quarterbacks.
Voilà. Après, c'est pas à ce moment-là du match, c'est en même temps pas ce qu'on lui demande non
c'est
plus.
Vrai. Enfin, après, voilà, c'est...
Alors, dans ce troisième quart, t'as quand même une équipe, en tout cas en attaque, les 49ers, t'as un Raheem Mostert qui gagne quasiment un first down par course, t'as un Deebo Samuel qui arrive à être trouvé, t'as un Kittle. Enfin, je veux dire, Garoppolo, au final, n'a juste qu'à trouver ses receveurs ouverts. Il n'a pas tellement imposé de rythme parce que le rythme est imposé par le jeu au sol et je pense qu'on lui demande de toute manière pas de le faire. Donc moi, ça me choque pas qu'il ait pas eu à prendre les choses particulièrement en main. Il a été propre. Il y a un moment où il enchaîne 15-16 passes d'affilée. Ça s'enchaîne, c'est mécanique. Moi, je trouve...
Moi, je trouve qu'au contraire, ça roule. Tu sens que c'est solide. Troisième quart,
ça roule plutôt bien.
La bonne phase des Niners, je trouve que c'est quand même assez cohérent.
Je trouve que ça roule plutôt bien, mais parce que le jeu au sol roule bien, qu'il y a peut-être aussi un côté en défense, parce que sa défense à lui aussi est en train de commencer à rouler sur l'attaque de... Et notamment sur la ligne défensive, on s'est fait plusieurs fois la remarque, la ligne offensive des Chiefs est en train de complètement craquer.
Justement, moi c'est peut-être pour ça, j'ai peut-être surréagi, parce qu'à un moment j'ai lu, on est comme tout le monde, on regarde un peu les réseaux sociaux en même temps, etc. Et à un moment je voyais, Garoppolo est le meilleur quarterback sur le terrain, etc. Je suis pas d'accord, parce que justement on en revient à ce que tu disais, et c'est vrai, c'est très vrai, c'est on leur demande pas la même chose, c'est-à-dire que Mahomes, il avait peut-être des moins bonnes stats, mais il avait une ligne qui était en train de prendre complètement l'eau, il se débrouillait à peu près comme il pouvait sur chaque action, un coup il a balancé, un coup il allait courir, etc. Donc voilà, j'étais pas tout à fait d'accord là-dessus, mais Garoppolo faisait un bon match, c'était pas le truc, mais c'était pas le meilleur quarterback sur le terrain pour moi, donc ça reste au-dessus. Au niveau, donc après, je ne sais plus de quoi on parlait parce qu'il est tard et que je suis en train de déphaser, j'ai interrompu là-dessus, donc on était sur la domination des 49ers, et au niveau des lignes. Clairement, on est d'accord que c'était vraiment l'élément aussi clé dans le troisième quart où on avait l'impression que ça basculait, c'est que ça prenait complètement l'eau du côté de la ligne offensive de Kansas City.
Oui, avec un Nick Bosa qui était absolument partout. Alors même sur des actions où il n'était pas là, on voyait la pression arriver avec un Rick Armstead qui était assez intéressant en anticipation, un DeForest Buckner qui était capable également de pénétrer dans la poche via l'intérieur. Mais c'est vrai que voilà, Nick Bosa a vraiment été un poison et à terme il a quasiment fallu pour les Chiefs intégrer un deuxième tight end avec Blake Bell pour vraiment réussir à avoir un deuxième bouclier, je dirais, pour Patrick Mahomes, parce que très clairement, la domination du rookie était telle que ça devenait un petit peu compliqué pour un Patrick Mahomes, qui en plus, avec les nombreuses courses qu'on lui a demandé de faire, commençait, je trouve, à perdre un petit peu en lucidité. On a vu quelques passes qui étaient moins bien assurées à cause de ça, et ça devenait quand même assez critique, et il y avait des décisions à prendre d'un point de vue bloc.
MVP ou pas MVP Patrick Mahomes, donc officiellement il l'a été élu.
Oui,
je sais que Greg n'était pas tout à fait d'accord pendant le match.
Alors, moi je... MVP, c'est pas le MVP du Super Bowl le plus convaincant que j'ai vu, clairement, que ce soit ces dernières années ou de manière plus générale, ça c'est sûr. Après, moi je pense quand même qu'il le mérite dans le sens où il colle vraiment à cette définition du MVP, c'est que toute une partie du match... On a l'impression que c'est quand même lui qui maintient, et notamment dans le troisième quart-temps et au début du quatrième quart-temps, on a quand même l'impression que c'est un peu lui qui maintient ses Chiefs en vie. Il y a cette passe sur 3 et 15. Il y a cette course pour le premier touchdown. Enfin, voilà, on a quand même l'impression que l'action décisive qui va changer le cours du match va venir de lui plus que de ses partenaires. Donc, le tout dans le tout, les moments du match, quand ça change offensivement pour les Chiefs, ça vient de lui. Donc moi je comprends le choix final qui est fait côté Mahomes, quoi.
Non, non, moi je conteste pas le fait que Mahomes soit MVP, mais c'est sûr que si on regarde notamment la fin de match et ce qui permet notamment à Kansas City de passer devant, je trouve que l'impact de Damien Williams est quand même pas négligeable. Je disais, il y a un dernier touchdown en effet qui paraît peut-être un petit peu sévère parce qu'en effet, bon, San Francisco est un peu sur les rotules à ce moment-là après un petit coup de massue après le turnover on down. Maintenant, voilà, c'est lui aussi qui marque le TD de la victoire. C'est lui qui a eu quand même, je trouve, un rôle assez important parce qu'il a permis également d'apporter cette alternance qui a quand même été bénéfique, je trouve, à Mahomes, même si Mahomes lui-même a été capable, on l'a dit, de prolonger les jeux à la course, hein, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, pour un joueur qui présentait des points d'interrogation sur sa capacité, justement, face à une telle défense, de retirer de la pression sur les épaules de Mahomes.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il a été très crédible. À la réception, avec des petits spin moves, il a été capable d'aller chercher des premières tentatives qui ont fait du bien. Donc voilà, j'aurais pas été choqué non plus de voir Damien Williams récompensé en tant que MVP. Parce que c'est vrai que Mahomes, il y a ses deux interceptions, dont la première qui fait un peu tâche. Après, voilà, il y a deux touchdowns à la passe, il y a un touchdown au sol. On peut pas non plus lui retirer le fait que oui, il a maintenu cette équipe de Kansas City à flot et qu'il a été décisif quand il a fallu l'être.
Moi, je suis team Raphaël pour ça aussi, parce que je pense qu'en effet que au moment où ils sont pas bien, il est le seul qui surnage, donc ça fait aussi la différence.
Ah ouais, mais je suis d'accord avec vous.
Même s'il galère.
Damien... Et c'est toujours un peu difficile ce genre de truc parce qu'on rentre dans la fiction. Mais je est-ce que du coup c'est vraiment un argument? Mais je me dis, tu mets Garoppolo chez les Chiefs ce soir et tu mets à l'inverse Mahomes chez les 49ers. Je pense que Garoppolo cool, et du coup, ces Chiefs n'ont pas, même avec un très bon Damien Williams, n'ont pas l'occasion de remonter.
Oui,
parce
peut-être,
que t'as pas
peut-être.
Ce quarterback qui est capable de. Mais bon, là, après, on rentre dans de la fiction. Et...
Mais même un co-MVP, par exemple, ça m'aurait pas choqué. Encore une fois, c'est pas dévaluer la prestation de Mahomes ou dire que l'un mérite plus que l'autre.
Non,
pour sûr. Pour rappel, Patrick Mahomes, 26 sur 42, 286 yards, 2 touchdowns, 2 interceptions. Damien Williams, 17 courses pour 104 yards et 1 touchdown, et 4 réceptions pour 29 yards et 1 autre. Touchdown. Est-ce qu'on a fait le tour un petit peu du match? Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous voulez revenir? On a eu un match quand même, on va le rappeler, avec un rythme plutôt lent en première mi-temps, 10 points pour chaque équipe, un field goal pour commencer sur le premier drive, si je ne dis pas de bêtises, Kansas City qui marque derrière pour mener 7-3, derrière la réponse des 49ers dans le deuxième quart-temps.
Il
n'y
a même pas
17-3
Kansas City même.
Après l'interception de Bashel Brown.
Oui, c'est possible. Oui. Parce qu'il y a l'interception en effet sur Garoppolo et derrière il capitalise avec un field goal. Et donc le touchdown de San Francisco par Kyle Juszczyk pour égaliser avant la mi-temps qui les remet un peu dedans. C'est vrai que finalement on parle de domination de San Francisco, mais la première mi-temps était plutôt équilibrée. C'est vraiment le troisième quart. Hein,
oui,
en fait,
c'est le troisième quart qui donne ce sentiment de grosse domination des 49ers et qui d'ailleurs se reflétait pas tant que ça dans les stats et dans les temps de possession et dans.
Oui, donc ça a été un match finalement où tu as eu une première mi-temps équilibrée et chaque équipe a eu son carton.
Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que pour le coup, on s'attarde beaucoup sur Garoppolo, notamment au niveau de l'attaque. Mais là aussi, c'est là où j'ai du mal à donner vraiment une grosse responsabilité à Shanahan sur le résultat en tant que tel. c'est globalement, il a, c'était qu'à depuis le début de la saison, mais il a vraiment capitalisé sur cette polyvalence de l'attaque. On a vu un Kyle Juszczyk qui a été extrêmement précieux d'un point de vue réception, qui a été difficilement stoppable par la défense des Chiefs. Et puis dans un autre registre, un Deebo Samuel qui, en sortie de backfield, a été également un poison, a quasiment récupéré une première tentative sur chaque course qu'il a effectuée. Et c'est vrai que du côté de Kansas City, même si on a beaucoup tapé sur Steve Spagnuolo, en effet, même si c'est pas toujours très glamour, c'est pas des énormes défenses qui sont mises en place, ils ont quand même réussi à trouver la réponse, mine de rien, à trouver un run stop capable de freiner. Et pourtant, tu l'as dit, il y a 141 yards au sol de la part de San Francisco. Donc, c'est relatif, hein, mais en tout cas, c'est dans les standards des Niners, ils ont quand même réussi à stopper. Et puis, avec le nombre de menaces qu'il y avait à disposition dans cette attaque de San Francisco, même un George Kittle n'a pas forcément eu l'impact qu'il a pu avoir sur d'autres rencontres tout au long de la saison. Donc c'est aussi à mettre au crédit des Chiefs, je trouve.
Un petit débat, Raoul a mis le Richard Sherman en flop pour les 49ers. Alors je le prends juste pour prendre en flop en général, mais est-ce qu'il est juste, j'ai envie de dire, de dégager vraiment un flop chez ces 49ers?
Non, c'est dur globalement, surtout en défense qui quand même une grande partie du match maintient les Chiefs à 10 points. Enfin, je veux dire, ils étaient en train de faire une performance de très très haute volée, donc c'est compliqué d'en dire que l'un était mauvais. Après, là où je vois un petit peu ce qu'il veut dire sur le côté flop, mais peut-être que lui le ressent encore plus parce qu'il l'a vu toute la semaine, et peut-être que Sherman était aussi celui qui parlait le plus, celui qui est sur le dernier, enfin sur le drive qui permet aux Chiefs de repasser devant en fin de quatrième quart-temps, donc celui qui leur permet de passer de 17-20 à 24-20. Sherman se fait quand même avoir deux fois de suite sur des réceptions qui coûtent malgré tout, il est bon dans cette espèce de défense de zone qui coûte un peu cher à l'équipe. Après, c'est le jeu aussi, hein.
Non mais c'est presque ça, tu l'as dit. Le souci aussi, c'est que, enfin, moi j'ai pas suivi toutes les histoires de Sherman, bon, pas bon. Enfin, globalement, il est solide depuis le début de la saison. On sait qu'il a eu des problèmes de blessure, etc. Mais globalement, on peut pas dire que il a été mauvais depuis le début de la saison. Ça a même été un des meilleurs joueurs des Niners en défense, ça c'est clair et net. Mais est-ce que vraiment, justement, cette défense en zone face à des receveurs qui sont aussi insaisissables, est-ce que c'est ce qui lui permet de s'exprimer le mieux dans son jeu? J'en suis pas persuadé. Donc, c'est vrai que quand on regarde d'un point de vue, il se fait pas griller particulièrement sur un match-up. Peut-être qu'il va être en retard à un moment donné sur un plaquage ou quoi que ce soit. Mais après, est-ce que c'est pas le style de défense qui veut ça aussi? Et c'est vrai que c'est pour ça que, encore une fois, c'est difficile de sortir un vrai flop de ce match-là.
Oui, flop est dur.
Voilà, c'est peut-être celui dont on attendait peut-être le plus. Après, voilà, le côté un petit peu turnover, mais il y a deux interceptions déjà qui sont faites de la part de Warner et de Mosley, de Moore, pardon. La défense, elle a capitalisé, même sans un Sherman qui était aussi énorme.
Je suis d'accord. Après, je pense que c'est aussi vraiment le côté, c'est le joueur le plus connu et le plus talentueux de ce backfield défensif. Et sur ce drive-là qui permet aux Chiefs de prendre l'avantage, bah, c'est lui qui est en retard sur les deux réceptions. Et du coup, tu gardes un peu cette image de, bah voilà, c'est la grande gueule Sherman, c'est le plus talentueux. Et t'as ce côté, genre, j'attends des grands joueurs qu'ils répondent présents dans les grands matchs. Et du coup, bah, comme un quarterback qui pourrait louper les passes décisives, bah là c'est le cornerback qui arrive un peu trop tard sur une ou deux passes, même si je suis d'accord, la défense de zone n'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux pour lui, que ça se trouve, lui il ne fait que rattraper une couverture mal embarquée par un de ses collègues au début.
On
connaît pas les assignations, donc c'est sûr et certain, mais je comprends qu'en termes d'image tu puisses te dire, ah, il s'est un peu raté. Après, flop, effectivement, c'est pas forcément le...
On va partir sur plus positif, la stat la plus folle probablement de ces playoffs. Les Chiefs ont été menés de 10 points dans tous leurs matchs de playoffs, dans les 3 matchs de playoffs qu'ils ont gagnés cette année. C'est quand même assez incroyable et ça prouve l'explosivité de cette attaque. On va partir un petit peu sur le futur, le turfu. En tout cas, petite ouverture.
Et je me permets, équipe très appréciée des parieurs, hein, les Chiefs, parce qu'à chaque fois, avec autant de retard...
C'est vrai. On a fait le tour à peu près, je pense, sur le match en lui-même. On va ouvrir un petit peu, donc je le disais, sur le futur quand même. On a deux équipes qui sont parties pour rester. Si je m'avance pas trop en disant ça, on a quand même des fondations très très solides des deux côtés.
Bah, en tout cas, c'est pas les deux équipes qui vont être le plus impactées à première vue par la free agency ou ce genre de choses. Donc oui, il y a quand même moyen de créer des fondations assez solides avec en effet des effectifs relativement jeunes. Du côté de Kansas City, il y aura encore et toujours cette question quand même de la défense, parce que c'est bien d'essayer de colmater, mais quand il va falloir donner un gros contrat à Mahomes, on ne pourra pas se permettre d'avoir des intermittents, le terme est un peu sévère, mais en tout cas, oui, d'une telle irrégularité au niveau de la défense. Mais oui, du côté de San Francisco, en l'occurrence, je me dis que Garoppolo va quand même progresser au fur et à mesure avec Shanahan. Faut pas oublier qu'il y a encore un an, il était à l'infirmerie, donc faut aussi lui laisser le temps de revenir, de se faire la main en tant que quarterback titulaire à NFL. Il a fait vraiment qu'une année et demie pleine en tant que starter. Donc, je suis assez optimiste pour San Francisco et pour son attaque notamment. On voit que ça roule quand même très très bien avec Kachanal, malgré la fin de match un petit peu chaotique d'aujourd'hui. Ouais.
Et une grande défense, donc a priori, ils ont quand même le rookie défensif de l'année. Hein. On n'a pas parlé des trophées dans cette émission, on en a parlé dans le fauteuil, on vous irait faire.
Ça sera un peu plus compliqué quand il faudra re-signer côté San Francisco tous ces joueurs de la ligne défensive, mais ouais. Bon, ils ont encore un peu de temps. Mais non, je rejoins Greg, il y a quand même des bons espoirs pour ces deux équipes, et moi je trouve surtout côté Chiefs avec une attaque pour le moment où les défenses de cette ligue n'ont pas encore tout. En tout cas cette saison, et est-ce que ça sera le cas l'an prochain, mais elles ont l'air de galérer un peu à trouver la solution pour les contrer.
Un petit jingle et un top flop, messieurs, le dernier de la saison. Les tops et les flops, messieurs, derniers pour la saison 2019-2020, édition Super Bowl. Qui veut commencer? Qui a un top?
Moi je vais aller sur Chris Jones, le lineman défensif des Chiefs, qui je pense n'est quand même pas à son rôle dans la globalement. Alors ils prennent quand même 140 yards contre les 49ers au sol, mais c'est peut-être moins que ce qu'on pouvait craindre. Il a quand même été présent plusieurs plaquages, il a une ou deux passes déviées de mémoire vraiment en sortie sur la ligne. Voilà, je pense qu'il a peut-être pas aussi flashy que certains autres joueurs, mais il a encore été très important dans l'attaque des Chiefs, enfin dans la défense des Chiefs, et notamment au bon moment dans le quatrième quart-temps. Donc Chris Jones pour moi.
Grégory.
Je pourrais sortir un ou deux joueurs des Niners. Alors on a parlé de Nick Bosa, mais c'est vrai que Deebo Samuel, c'est un autre rookie qui a quand même crevé l'écran cette année du côté de San Francisco. Je le disais, un peu plus utilisé dans l'explosivité. Je pense qu'à terme, ça peut quand même devenir un bon receveur numéro 1 des Niners. En tout cas, il peut prétendre le devenir avec des mains qui restent relativement sûres. Donc c'est vrai qu'il a été utilisé dans un registre en particulier, mais je serais curieux de voir ce que ça peut donner. Donc voilà, c'est un top pour moi aujourd'hui en l'occurrence.
Bon, et ben moi du coup, je suis content que personne n'en ait parlé, mais Andy Reid, premier titre, après 15 ans de carrière, et puis Andy Reid en plus agressif, qui a fait un beau match. Donc plutôt content pour lui.
Est-ce qu'il vient pas de s'offrir son billet pour le Hall of Fame, l'ami Andy Reid?
C'est possible.
Avec ça.
Je pense qu'il l'aura eu quand même.
En tout cas, oui, je pense que ça vient
Non, mais au-delà de tout le monde y rentre, voilà, s'il y avait que.
Là, en tout cas, je pense que ça vient mettre le coup final à.
Voilà, je pense que. Ouais, enfin, je sais pas, Edgerrin James, par exemple, qui fait partie des lauréats aujourd'hui, il a pas gagné de titre et pourtant il a eu un impact au niveau du jeu au sol dans la ligue. Heureusement qu'il faut pas forcément avoir un trophée Lombardi pour représenter l'histoire de la ligue, quoi.
C'est vrai. Alors, Grégory ou Raphaël, qui a un flop?
Alors moi j'ai un petit flop parce que je préfère anticiper. Alors on en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a la fameuse controverse du touchdown de Damian Williams quand même. J'ai vu passer quelques commentaires, on nous dit alors il met le pied en touche, tout ça. Alors je précise que c'est pas une réception, enfin qu'il a le contrôle du ballon à partir du moment où il sort du terrain, et que donc à ce moment-là c'est un coureur, et qu'on prend donc la position du ballon au moment où son pied sort, et on voit qu'il y a quand même une partie du ballon qui est au-dessus de la ligne.
Et on rappelle aussi, peut-être qu'il y en a qui découvraient, hein, que le ballon, même si juste le bout du ballon, un centimètre du ballon au-dessus de la ligne blanche, ça suffit. Il ne faut pas qu'il les traverse en
Donc,
entier.
Encore une fois, je peux comprendre la frustration, notamment de certains fans des Niners, etc. On sait qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur les arbitrages cette année. Mais je ne suis pas sûr, en l'occurrence, sur ce match-là. Et on se posait la question, en plus, au vu du ralenti. C'est vrai qu'en plus, retourner l'avis sur ça...
Tu peux pas le retourner.
Voilà, c'est vraiment... si vraiment le ballon avait été derrière la ligne, c'était compréhensible. Mais là, à partir du moment où il était vraiment coureur, car en pleine possession du ballon, c'était compliqué d'invoquer le fait qu'il était sorti des limites du terrain, donc du coup, on annulait tout, quoi.
Bah, si tu veux analyser les polémiques, tu peux aussi te faire l'interférence défensive. sur Travis Kelce.
Alors ça c'est pareil, c'est vrai que celle-là elle est très sévère, ça aussi on était globalement d'accord là-dessus il me semble, elle était très sévère. Après je pense que la faute n'est pas volontaire de la part de Moore, mais que forcément elle empêche très clairement Kelce de fermer les bras. Donc c'est vrai que ça aussi tu te dis bon, c'est encore une fois je le dis, c'est sévère mais c'est pas non plus incompréhensible.
Raphaël, est-ce que t'as un flop?
Bah écoute, là comme ça, j'en vois pas particulièrement. Je trouve qu'on a eu un match d'un niveau assez bon et du coup, il y a pas un joueur qui s'est particulièrement illustré de manière très négative. J'aurais pu dire la ligne offensive des Chiefs, mais elle rencontre une ligne défensive tellement monstrueuse que on s'attendait à ce que ce soit dur. Elle prend un peu l'eau, mais est-ce que c'est vraiment un flop du coup, tu vois?
Bah, Duvernay tardif, on s'attendait pas quand même à ce qu'il gagne.
C'est vrai que Duvernay tardif, je voulais pas trop critiquer notre ami francophone, mais
il a passé une longue soirée.
Il a passé une longue soirée. Il est responsable aussi d'une ou deux pénalités.
C'est censé être un des meilleurs gardes de la ligue.
C'est vrai, c'est vrai que.
Bon alors, je te souffle ton flop parce que je l'avais noté pendant le match. Les marches arrière de joueurs qui peuvent aller au first down.
Ah oui, c'est vrai ça.
Vous avez été énervé par ça toute la soirée. Donc,
On l'a vu, Kelce l'a fait, d'ailleurs, il l'a fait. Cette manie de, quand ils réceptionnent la balle, ils sont à 3 cm d'obtenir le first down et repartent en arrière pour faire le big play, le cassage de rein. Alors c'est fun à voir, hein, ça, il n'y a pas de doute, mais à chaque fois qu'ils ont fait ça, ils se faisaient plaquer derrière la ligne de first down et ils rataient l'occasion de récupérer une première tentative. Surtout que de mémoire, Kelce, pareil, il le fait pendant le troisième quart-temps où les Chiefs ont l'air d'être à l'agonie. Tu dis non, mais attends, c'est pas possible là, mon gars, va falloir y aller. Enfin, ouais, non, c'est assez énervant. Mais en même temps, voilà, c'est la mentalité de ces Chiefs, cette équipe-là, et c'est ce qui leur permet d'être aussi champions à quelque part peut-être. C'est cette volonté en permanence de chercher le big play, d'être explosif et d'être sûr de leur force et de pouvoir casser les reins de tout le monde. Alors, nous, ça nous frustre, mais peut-être que ça fait aussi partie de leur mentalité de vainqueur et bon.
Non mais oui.
Non mais tu vois maintenant que en y disant, est-ce que ça fait pas partie de leur mentalité et...
Ouais. Enfin.
Non mais je suis d'accord, mais bon.
Non mais je le partage, c'est pour ça que je l'avais noté pour mes flops. Top ou flop le show de mi-temps, parce que ça fait partie du show. Hein.
C'est vrai, ça fait partie de la finale.
Faut pas en répondre.
Je sens que vous n'avez pas été convaincu.
Non, j'ai pas été. Je vous ai vu extrêmement critique dessus. J'avoue que je m'attendais à pire. Franchement, je te mets largement ça au-dessus de Coldplay,
oui.
Au-dessus de Maroon 5,
oui.
Même au-dessus de Timberlake.
Moi, je me rappelle même plus.
Ah il y a sans doute une raison à ça. Donc, au-dessus de Timberlake, après, oui, c'était quand même en deçà de ce qu'on avait pu voir avec du Bruno Mars, du Katy Perry, peut-être même du Lady Gaga. Mais bon, c'était un show relativement acceptable. Après, c'était pas un truc sensationnel. Moi, je l'ai dit. Après, on m'a dit, elle danse, donc c'est plus dur. Mais c'est vrai que les sessions playback, moi, ça me fait chier. Donc, ouais. Voilà. C'est...
Il n'y a plus que ça. Mais...
Non, mais on a
je vais essayer de ne pas être...
On l'a beaucoup dit pendant qu'on regardait, Raphaël. Le problème de ce truc-là depuis 2 ou 3 ans, c'est qu'ils essaient de caler 20 ou 30 titres en 15 minutes. Il n'y a plus une seule chanson en entier là-dedans.
Là, du coup, c'était compliqué parce que tu avais deux artistes.
Ah ouais.
Qu'on aime ou on n'aime pas, on sait 20-30 dernières années, 20 dernières années, on enchaînait un grand nombre de tubes.
Ah ouais, il y en avait un paquet.
Donc,
là, hein.
Donc je veux dire, c'est difficile de résumer tout ça et de condenser tout ça. Donc forcément, ça fait cette espèce de match-up frénétique presque sous Coca à Miami. Donc
il y a
peut-être une connotation.
Un
ouais, t'arrives pas à t'ambiancer.
Ces dernières années, c'était pas vraiment le
voilà. Après, c'était.
C'est le show de mi-temps millennials, quoi. C'est des morceaux de 20 secondes de chansons.
Visuellement, ça tenait la route.
C'est ce que disait Alain pendant qu'on regardait le show. C'est vrai que, bon, j'étais pas totalement d'accord avec lui, mais c'est vrai que c'est pas vraiment non plus un show de mi-temps au goût du jour, quoi. C'est-à-dire que prendre deux stars,
un peu
dépassé pour les uns.
Voilà,
c'était les titres des années 2000 pour l'une, les titres des années 90 pour l'autre. Bon, ça fait un choc quand même.
Il y avait des trucs, le remix techno là, à un moment sur Jennifer Lopez, il était violent. Hein.
Oh. Bon, après.
Mais après, c'était dansant et tout. Hein. C'était pas,
c'était pas
désagréable. Hein.
Bah, non.
Non, mais c'était une ambiance qui se prêtait au cadre, etc. Mais c'est vrai que, bon, si on attendait quelque chose de relativement neuf.
Oui, non.
On pouvait être déçu.
Non, c'était dansant, quoi. C'était oubliable. C'était oubliable. Vous voyez, on peut le dire. Vous êtes, on a été perturbé parce que le chat ronfle. Bon, ben, messieurs, justement, c'est à notre tour d'aller ronfler.
Bah oui.
On a fait le tour, écoute, des tops et des flops. On a débriefé ce Super Bowl. Il est 5h11 du matin. On a donc terminé l'épisode numéro 342 du podcast J'en Actu. On vous rappelle que l'émission vous est présentée par le Hard Rock Café Paris, qu'on remercie de nous avoir soutenus pendant toute la saison. On remercie aussi tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Pour nous suivre, c'est Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TDActu en entier, Raphaël _TDA pour Raphaël sur Twitter, @Thielo Radio ça pour Grégory, @Camille Sarabène qui dort sur le canapé et là aussi, et @Alain Mathé pour moi-même. On vous donne rendez-vous en mars pour la reprise de l'émission pour une nouvelle saison. Je sais pas comment, parce que maintenant les podcasts il faut les mettre par saison sur les plateformes, alors je sais pas quand notre saison elle commence, si c'est septembre ou mars.
Officiellement la saison NFL commence au mois de mars.
Tu vois, du coup est-ce que c'est est-ce qu'on commence la prochaine saison
bah, quand tu commences la free agency, ouais, tu commences le podcast de 2020.
Ouais, bah va falloir qu'on fasse ça alors.
Techniquement, c'est la dernière de la saison.
Bon, bah, je vous remercie encore infiniment, en tout cas, messieurs.
Bah, merci à Raphaël, toi pour cette animation de qualité.
Grégory. Merci Camille. Et ben, bah, en plus, on a, c'était une grande première, on le rappelle. Super Bowl, donc avant match, fauteuil de 2 heures, Super Bowl et enregistrement du match dans la foulée. On va aller dormir un petit peu pour récupérer de tout ça après avoir mis en ligne l'émission. On vous remercie énormément d'avoir suivi toute cette saison. Et n'oubliez pas, il se passe plein de choses sur Touch en Actu pendant l'intersaison. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Le programme de toute l'intersaison est mis en ligne dès ce lundi sur le site. N'hésitez pas à aller faire un tour. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tagliate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.